Vous écoutez
RMC. RMC, Roten Régal.
Et la casquette Nissan, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette Nissan.
Le multiplex.
Dans ce multiplex, à tout moment, Jean Baumel donc peut revenir. Mais nous sommes avec ceux qui luttent toujours pour le titre, même si c'est peut-être davantage la bataille pour la troisième place
oui,
qui les concerne. On ne sait jamais. Lille et Paris peuvent peut-être perdre des points ce week-end.
Ils vont pas se rebondrer comme ça, les deux.
En tout cas, mathématiquement, c'est encore possible.
Ah, il y en a un qui croit, là. J'entends.
On l'a entendu, Edouard G à Lyon. Salut, Edouard.
Salut.
Salut, Edouard.
Et Clément Brossard pour Monaco. Salut Clément.
Salut Jean-Louis. Salut Clément. À tous. T'y crois plus, Jérôme? Non, mais je te croyais dans la cour jusqu'au bout. Là,
j'y crois plus pour Monaco. Monaco et Lyon, j'y crois plus. Ils sont trop loin maintenant. Mais je vois pas deux équipes dégringoler, que ce soit Lille ou Paris, sachant qu'ils ont été intraitables sur les dernières journées.
Il y a quand même la course à la troisième place dont on va parler avec vous. Et puis en bas de tableau, le match de la peur. Le match qui fait trembler tout le monde. C'est entre Nantes et Bordeaux. Et on va en parler avec Xavier Grimaud. Salut Xavier.
Bien sûr.
Salut Jean-Louis. Salut Jérôme. Salut Capitaine. C'est le match le plus excitant de la journée, évidemment, en Nantes-Bordeaux. Quand même.
C'est le match le plus stressant, en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Et notre correspondant à Bordeaux, Nicolas Paul-Orsi.
Oh,
salut Nico.
Oh,
salut les gars, salut à tous.
Salut Nico.
Vous n'avez pas invité Julien Landry ce soir pour qu'il nous parle de trading?
Ah oui, j'ai entendu, il a dit trading. Et il a dit, c'est l'accent.
Là-bas, on dit comme ça.
C'est l'accent.
Ah oui, c'est comme ça. Ouais. Vous êtes là pour faire remonter ce qui se passe dans vos régions. Là-bas, on dit trading.
Tu t'es remis, Nico, de ta soirée quand même, parce que là, c'était le folklore, le dernier match.
Ah bah, on a célébré. Moi, tu sais, j'ai pas vu beaucoup de victoires cette année, Jérôme.
Tu sais que Nico, il a même mis son but commenté sur Twitter. Tellement qu'il est fier de commenter une victoire. Il y en a tellement eu cette saison. Écoutez, les gars, ce que ça fait. Voilà, c'était magnifique. Bravo Nico. Bravo. Allez, on y va messieurs. Un débat par gros club et des tours des stades pour rythmer tout ça avec des infos. On commence par Monaco. Est-ce qu'il peut y avoir un problème de digestion, Clément? Monaco qui reste donc sur cette défaite face à Lyon et qui se déplace à Reims, c'est dimanche 17h.
Oui, alors le résultat du match face à Lyon semble digéré, en tout cas. On a vu cet après-midi le capitaine Wissam Ben Yedder en conférence de presse, comme à son habitude. Alors il n'était pas très bavard, jamais volontiers dissert Ben Yedder. Mais quand on lui a demandé si en tant que capitaine il avait dû, plus que d'autres, peut-être remobiliser les troupes, elle a répondu que ce revers contre Lyon n'était pas un coup pris sur la tête. Il a même reproché à certains médias, en général même, d'en avoir un peu trop fait sur les conséquences de la défaite. Écoutez-le, c'était il y a un peu moins de 4 heures.
J'ai l'impression que cette défaite a changé beaucoup de choses. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de dire. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que l'équipe se sent bien, l'équipe se sent de mieux en mieux. On est troisième, on est sur le podium, et si on gagne tous nos matchs, on restera ici.
Et sur les trois derniers matchs, donc un déplacement à Reims, une réception de Rennes et un dernier match sur la pelouse de Lens, contre ces trois-là, Monaco n'a pas réussi à s'imposer lors de la phase aller, même si, c'est vrai, c'était pas le même Monaco. Alors il y aura également dans 4 jours la demi-finale de Coupe de France chez le Petit Poussé, le club cher à notre Savoyard Edouard, Rumilly-Vallières, et Monaco pourrait tout perdre en une semaine, mais Nico Kovac lui voit positif. Il nous a dit cet après-midi, voilà, j'ai jamais été pessimiste, c'est pas dans ma nature, je suis au contraire quelqu'un d'assez optimiste, et à 3 journées de la fin, j'ai aucune raison de changer. On est troisième, on est en demi-finale de Coupe de France. C'est une chance pour moi, pour mes joueurs, pour le club en général. Donc voilà, la défaite contre Lyon, c'est du passé. Et les Monégasques sont prêts à rebondir ce dimanche au stade Auguste Delaune de Reims.
Jérôme, comment tu vois les choses?
Écoute, oui, c'est un gros coup derrière la tête quand même. Parce que même s'il y a beaucoup de jeunes et inexpérimentés du côté Monégasque, qui sont en train de faire une saison remarquable. Et que je pense que vu l'animosité qu'il y a entre les deux clubs en plus contre Lyon, il voulait marquer le coup de nouveau et puis être toujours dans la course à déjà s'assurer la place en Ligue des Champions, parce que s'ils avaient gagné même match nul, c'était quasiment fait, et puis jouer peut-être les troubles faites pour le titre de champion. Mais encore une fois, rien ne vient par hasard. Je pense que certains joueurs, le club avait peut-être besoin aussi d'avoir une claque comme ça. Ça fait partie de l'expérience du haut niveau, et que ils vont s'en servir de cette claque-là, parce que ils ont mal géré le match. On va pas refaire le match contre Lyon, mais ça s'est joué aussi dans les têtes, dans l'approche, dans la façon de mener et de rentrer comme ça en deuxième mi-temps. Ils ont fait trop d'erreurs. Ils l'ont payé cash. Mais ça fait partie de la jeunesse. Je crois qu'on est tous passés par là, ou d'un moment t'apprends aussi avec ce genre de d'échecs. Mais moi j'ai aucun doute que ce club et ce groupe de joueurs va rebondir, parce qu'ils ont montré beaucoup de qualité depuis le début.
Capitaine, t'es d'accord avec tout ça?
Ouais, Monaco s'est trompé contre Lyon. On l'avait dit avec Jérôme d'ailleurs. Ouais. Hein. Et on l'avait dit. Attention, s'ils le mettent sur le plan de la sur le plan de la pas de la vengeance, mais en tout cas de l'agressivité, de règlement de compte. Voilà exactement ce qu'on avait dit. Ils vont le payer cher et ils l'ont payé cher. Bon, à Reims, Mais ils ont quand même une grosse carte à jouer encore, l'AS Monaco.
Bien sûr.
Celle de rester sur le podium. Et c'est pas rien. Mais on va regarder quand même avec attention comment ils vont réagir. Je suis pas sûr, même si on a entendu des gens dire, vous voyez, ça y est, on a évacué la déception. Je pense quand même que c'est pas facile à évacuer.
Ouais, ouais. Alors, passons à Lyon qui s'est imposé face à Monaco. Lyon et Jean-Michel Aulas a parlé d'une éventuelle saison sans Ligue des Champions, Edouard. Ah. Est-ce que ce serait une catastrophe?
Alors, donc, on va déjà redéfinir l'OL qui a 71 ans. Déjà, l'année prochaine, ça sera sa 36e saison européenne. Et dans l'air, Jean-Michel Aulas, ses 32 ans de présidence, ça sera la 24e fois qu'il y aura de l'Europe avec l'Europa League, donc au minimum. Et s'il y a une Ligue des Champions, ça sera la 19e fois. Tout ça pour dire qu'il y a une forme de Ligue des Champions dépendance à Lyon, dans l'attente des fans, des VIP, des joueurs, mais aussi Ligue dépendance économique. Alors, ce matin, on avait une conférence de presse de Jean-Michel Aulas pour une prolongation d'une joueuse de l'équipe féminine, Delphine Calcarino. Et du coup, on a eu l'occasion de lui poser quelques questions. Que nous a-t-il répondu justement sur cette pression peut-être supplémentaire aujourd'hui par rapport à cette saison de pandémie avec tous ces millions qui se sont envolés avec Mediapro et l'absence de public? La pression est sur moi, a répondu le boss de l'OL, pas sur les joueurs, parce que de toute façon, ils seront payés, il n'y a pas de problème là-dessus. On aura certes de grosses difficultés, je l'ai dit, les pertes seront considérables cette année, mais comme dans la plupart des autres clubs. Par contre, on a des fonds propres que les autres n'ont pas. A priori, on résistera mieux que les autres. Voilà ce qu'a dit Jean-Michel Aulas. Ces fonds propres, c'est 156 millions d'euros. Alors certes, il y a une chute d'activité de 20% cette année. Certes, déjà sans Coupe d'Europe cette année, c'est 51 millions en moins dans les caisses. Il y a une forme de Ligue des Champions dépendance, mais l'autre versant, c'est donc ces millions engrangés, ce bas de laine qui va donner un petit peu d'élan quand même l'année prochaine à l'OL, même sans Ligue des Champions. Mais quand même, la présence en Ligue des Champions serait réconfortante et surtout attirante pour les joueurs.
Non mais elle est dramatique, Edouard. Dire, tu te laisses pas endormir par ton président. Il y a les dramas sportivement.
Non, mais financièrement, millions, ok. 156 millions,
non, mais on est d'accord.
Moyen de mais affronter l'avenir. Mais je remettais le contexte. Non, mais je ne suis pas fait endormir. Je lis juste les chiffres pour remettre les chiffres dans le contexte.
D'accord.
Quand on
okay.
a 156 millions dans les caisses pour l'instant.
Oui, d'accord.
Si
ok, mais
c'est. Tu as les moyens de faire. Après, je te dis bien évidemment, une présence en Ligue des Champions serait réconfortante, mais aussi attirante pour les joueurs.
Elle serait. Moi,
du début à la fin.
Moi, elle serait dramatique. Elle serait dramatique. Sportivement, financièrement, moi j'en ai rien à faire que ça se passe bien et tant mieux pour Lyon, dire que ils aient des fonds de côté, que ils aient anticipé aussi ces mauvaises saisons sur en France et de pas faire la Coupe d'Europe, que ça soit l'UEFA ou la Ligue des Champions. Mais bon, je suis désolé, mais sportivement, quand tu vois les moyens de Lyon, ce qu'ils ont essayé de construire, si tu fais pas la Ligue des Champions cette année, mais c'est pour ça que je te dis que c'est dramatique, parce que pour avoir des joueurs, comment tu reconstruis l'effectif, avec qui et tout ça, c'est encore une perte de temps. Et dire Lyon ne peut pas se permettre encore une fois une année de plus de pas faire la Ligue des Champions.
D'autant que Jean-Michel Aulas a déjà dit le contraire. S'il s'est battu autant l'an passé, à juste titre d'ailleurs, et là sur ce coup-là je lui donne pas forcément tort pour que le championnat continue et qu'il soit qualifié éventuellement comme il l'imaginait pour une Ligue des Champions, et c'est parce que déjà il y avait un petit problème et qu'il aurait préféré avoir la manne financière de la Ligue des Champions plutôt que de l'avoir lui passer sous le nez. Une fois c'est compliqué, deux fois ça l'est, mais c'est alors dramatique, je sais pas si c'est cet adjectif qu'il faut employer. Mais il y a le côté financier, mais il y a aussi le côté sportif, Doudou. C'est-à-dire que l'Olympique Lyonnais, qui n'est plus européen en Ligue des Champions comme il l'a été régulièrement, c'est le standing qui est en train de baisser. Donc je pense que
mais les joueurs, Jean-Michel, les joueurs, les joueurs, les supporters, d'un moment t'as bien, c'est bien beau d'entendre les choses financières,
ils s'en foutent des fonds propres,
mais bien sûr ils s'en foutent, eux c'est des passionnés, eux c'est des passionnés, ils ont envie d'avoir des émotions.
Après, les infos économiques, c'est bien de les rappeler aussi, voilà,
jusqu'au 30 juin prochain.
Alors on va laisser
non, mais attends, d'accord, non non, mais ça, juste pour dire, quand il parle des fonds propres et puis que il se refuse à prendre depuis des années et des années, je ne vise pas spécialement Garcia, Genesio ou les autres,
oui,
le grand coach qui l'annonce à corps et à cri, les supporters.
C'était pas Genesio? C'était pas Garcia?
Ce que tu as défendu? Bon, bref,
merde. C'était pas Le Guen? Voilà.
On s'est marqué.
Les supporters peuvent lui renvoyer quand même aussi en lui disant, si vous avez de l'argent, prenez un grand coach.
19h13, tour des stades. On y va. Quatre infos.
Et il y a de l'évolution, hein.
Arrête.
Oui, bien sûr. On y va donc pour le tour des stades.
Tu sautes sur tout ce qui bouge, toi. C'est incroyable, ça.
On y va donc avec quatre infos donc, et vous me dites ce que vous retenez. Rennes, puisque Rennes PSG, c'est un match très important dimanche 21h, Xavier Grimaud, deux absents importants côté rennais.
Ouais, Rennes qui sera privé de ses joueurs cadres dans le même secteur. Deux joueurs cadres, Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga, sont suspendus. Alors c'est évidemment un coup dur. Il n'y a pas énormément de solutions pour Bruno Genesio. Il y en a une au moins qui est évidente, c'est Clément Grenier qui devrait prendre une place au milieu de terrain. Pour la seconde, c'est plus compliqué. On peut lancer un jeune en Ligue 1 comme Leslie Hugo Chokou. C'est un jeune espoir, mais il a que 17 ans, donc c'est trop risqué. On devrait donc voir Bourigeaud glisser au milieu avec Grenier et Flavienté un peu plus haut.
Monaco, on en a parlé, qui est à Reims dimanche à 17h. Finalement, il n'y aura pas tant de retours que ça dans l'effectif, Clément.
Oui, hier, on annonçait que Diatta était présent à l'entraînement, que Golovin pourrait être titulaire et que Jelson Martins serait de retour. Tout ça est vrai, sauf que seul le Portugais Jelson Martins pourrait être finalement présent à Reims. Crépin Diatta est encore trop court physiquement, a expliqué Kovac cet après-midi. Et pour Golovin, il a suivi un entraînement adapté depuis hier après 10 jours d'isolement et a encore besoin d'un test PCR négatif, d'un examen médical afin de voir si sa forme lui permet de jouer. La vie est plus importante que tous les matchs de foot, a dit Kovac, toujours très prudent sur la santé de ses joueurs. On en saura certainement plus demain sur la présence du Russe à Reims.
Il devrait pas jouer, donc a priori, si on suit ce discours.
C'est mal parti.
À Lyon, finalement, il y a un retour important. Et là, ça s'est joué en commission, Edouard, donc pour le groupe qui recevra Lorient demain à 17h.
Alors, on vient de recevoir le communiqué de l'OL. C'est tout frais. L'OL qui fait appel devant la conférence des conciliateurs du CNOSF pour la suspension et le carton rouge de Mattia Deschilio. Étant donné que cette saisie est suspensive, Mattia Deschilio est présent demain. Donc il n'est pas suspendu, le défenseur italien, et la commission se réunira mardi 11 mai prochain. Donc peut-être il sera suspendu pour le match d'après, si bien que l'OL se retrouve quand même, mine de rien, avec un défenseur de plus, et peut-être aussi, même sûrement, Jason Denayer. Donc moins de problèmes que cela pour les absents du côté de l'OL. C'est tout chaud, hein, au niveau de Mattia Deschilio.
Et vous me connaissez, je garde le meilleur pour la fin. Bordeaux, qui est à Nantes demain à 13h, incertitude autour de Ben Arfa, Nico.
Oh, le coup dur. Touché aux adducteurs, Atem Ben Arfa. Il sera pas du. Il est très incertain pour demain. C'est pas vraiment une grosse perte pour Jean-Louis Gasset, parce que je vous rappelle quand même les stats. Hein. Ben Arfa a démarré que 3 des 10 derniers matchs. Il a plus été décisif depuis le 23 décembre dernier. Il a vraiment beaucoup de matchs sur cette deuxième partie de saison.
Il a tout donné au début.
C'est vrai qu'il a trop donné.
Il a beaucoup donné au début.
Sur la deuxième partie de saison, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que la première était incroyable.
La première, il a. Début de 4 passes D.
Sur la première partie de saison, il a fait combien de matchs? 5.
C'est bouleversant. C'est ça.
Qu'est-ce qu'on retient, Jérôme?
Non, je pense qu'à Rennes, on rigole, mais à Rennes, il y a beaucoup d'absences quand même là sur ce match. Il joue le Paris Saint-Germain.
Mbappé suspendu.
Le Paris Saint-Germain se remettra plus facilement de certaines absences que Rennes. Rennes, on voit l'effectif. Surtout, c'est au cœur du jeu. Du moins, Camavinga, Nzonzi, ça fait beaucoup. Mais bon.
Messieurs, dans un instant, le multiplex de la 36e journée se poursuit avec ce match de la peur entre Nantes et Bordeaux. À tout de suite.
RMC
18h-20h,
Roten Régal, Jean-Louis Tour,
Jérôme Roten.
19h18 sur RMC, toujours dans Roten Régal. Allez Jean-Louis, on continue notre multiplex Ligue 1. Ouais, on a encore plein d'infos.
Et on ira à l'étranger, en Espagne, un énorme Barça Atlético. En Angleterre, il y a déjà la finale de Ligue des Champions ce week-end en championnat entre City et Chelsea. On y reviendra tout à l'heure. La Ligue 1, effectivement, avec Edouard G, Clément Brossard, Nicolas Paolorsi et Xavier Grimaud, puisqu'on évoque tout de suite Nantes-Bordeaux, demain, 13h, le match de la peur, clairement, entre les Nantais 18e, barragiste avec 34 points, et Bordeaux 15e avec 39 points. Ça veut dire qu'en cas de victoire de Nantes, mais il n'y aurait plus que 2 points d'écart entre ces deux équipes à 2 journées de la fin. Alors, on va commencer par Nantes, juste après Jean Baumel qui nous appelle le bus. Où on est voilà, le bus l'entend.
Okay. Ah bah, il avance tout doucement, je veux dire qu'il y a, c'est incroyable. C'est franchement, il y a des fumigènes, mais dans tous les sens. C'est un brouillard.
Allez, Pino, allez, Pino.
Et jaune, c'est assez impressionnant. Des pétards, il faut même faire attention de pas en prendre un sur soi parce qu'il y en a, ça claque dans tous les sens. Vous entendez les supporters qui acclament, qui encouragent les joueurs lensois que je vois. Ils sont à 1m50 de moi. Voilà, ils font signe forcément à travers le bus. La motivation, forcément, pour ce derby, ce 112e derby entre Lens et Lille. Ah oui, c'est incroyable. Je vais vous laisser écouter un petit peu quelques secondes.
Jérôme, t'es pas obligé de chanter. Ah, Jérôme, il a bloqué.
Bon, à un moment, ils ont fait Roten, Roten.
Après
ils sont pas encore arrivés au stade, hein, le bus avance à 2 à l'heure.
Après tous ces matchs à huis clos, ça fait plaisir d'entendre les supporters.
En plus, franchement, j'en ai des frissons.
Ah ouais, non, mais
là, j'imagine dans le stade, sauf qu'il sera vide.
Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu ça.
Et puis pour Djibo, c'est beau parce que là, vu que c'est un supporter lensois, tu prends foot à fond, quoi.
Moi, je suis supporter du Racing Club de Lille.
Merci, Djibo. Oh, quelle ambiance, quelle folie, là, c'est magnifique. Ça vous a donné des frissons, les gars, aussi?
Ah bah, bien évidemment.
Ce sera pas la même annonce demain.
Surtout quand Djibo a dit que le bus avançait tout doucement. Ça, c'était.
C'est important. Alors, donc on allait sur Nantes. Nantes et ses clubs historiques qui sont peut-être condamnés à la galère. C'est ce qu'a dit Antoine Comboiré, Xavier.
Ouais, exactement. Le FC Nantes qui est au bord du gouffre cette saison. 3 matchs pour sauver sa peau. Enfin, pour Antoine Comboiré, il y en a 5 parce que clairement, il se projette à juste titre sur le maintien le 30 mai prochain au barrage retour face au club de Ligue 2. Mais cette saison est peut-être juste une répétition de ce qui attend les Nantais les prochaines années s'ils se sauvent. Peut-être pas autant galère, mais des saisons loin du haut de tableau. Parce que Comboiré, il a été assez cash, hein, il a dit sur les clubs comme Nantes ou Bordeaux qui galèrent comme pas possible. Ça fait de la peine, ça fait pitié même, mais il faut être réaliste quand on voit les budgets que l'on a. On ne peut plus lutter avec des équipes du haut de tableau, même des équipes comme Rennes. Ce serait une surprise de nous voir dans le haut. Voilà ce qu'il a dit, donc assez cash, hein, Comboiré. On peut quand même nuancer en voyant que Nantes a cette année 75 millions d'euros de budget estimé, c'est-à-dire le 9e budget de Ligue 1. Et si on revient sur les 15 dernières années, Nantes n'a fini que 2 fois la 9e place ou mieux. C'était 7e avec contre CSAO en 2017 notamment. La place moyenne du club, c'est plutôt autour de la 13e place. Alors le budget a peut-être un peu le dos large. C'est pas vraiment une question de budget, mais plutôt une question de politique sportive. Jérôme, capitaine, je pense que vous serez d'accord. Et au passage, on va souhaiter un bon anniversaire à Valdemar Quitta. Il fête ses 68 ans aujourd'hui, messieurs.
À transmets-lui le bon anniversaire de Jérôme Bretagne.
Bon, oui, donc, je lui dirai demain. Pourquoi tu rigoles?
Bah oui, non mais
ça veut dire que j'ai un problème avec Valdemar Quitta.
Non, pas
aucun
tout.
Problème.
Pas
bien sûr, je lui souhaite un bon anniversaire.
On lui souhaite, évidemment.
Il profite bien et en espérant pour son club qu'il arrive à s'en sortir déjà ce week-end. Mais sur le à court terme déjà et puis après à moyen terme parce que en effet Xavier t'as raison, je veux dire c'est un problème de gestion de club, la politique, qu'est-ce que tu veux mettre en place,
l'argent mal dépensé.
Et oui l'argent il en a mis et il continue à en mettre et ça on peut pas lui reprocher mais il faut être un peu plus judicieux, un peu plus efficace et surtout bien sentir les choses, ce qui est pas le cas. Alors est-ce qu'il a eu le nez avec l'arrivée de Comboiré et que Comboiré arrive à s'en sortir? Moi, j'étais sceptique au départ. En effet, le classement, pour l'instant, lui donne pas raison parce que il me semble, Xavier, tu me dis des bêtises mais quand il est arrivé, ils étaient pas relégables.
Non, ils étaient juste devant.
Il était 17e quand il arrive, il passe 19e très vite.
Il aurait fallu maintenir Domenech, c'est ça que tu veux dire?
Non, mais l'erreur, elle était là.
Non, mais le paradoxe, Jérôme, c'est que je crois qu'ils sont effectivement descendus au classement, mais que leur moyenne de points
a augmenté,
n'est pas si mauvaise que ça. Enfin,
elle était tellement nulle avec Domenech qu'elle pouvait être mieux.
Mais il se passait un truc, on lui a pas laissé le temps.
Et bon, surtout avec Gourcuff, est-ce que il faut comparer avec Christian Gourcuff sur la première
partie? Plutôt qu'avec
Domenech. Bah oui, Domenech c'est une erreur de casting.
Domenech c'est incomparable, c'est du très haut niveau.
Il a un peu de chance aussi.
Là, vous êtes dans le top là. là avec.
Et est-ce que ce match-là ne va pas se jouer surtout dans les têtes, au mental? Et à ce petit jeu-là, est-ce que les Bordelais sont moins préparés au combat, Nico?
C'est possible parce que Bordeaux n'est pas une équipe qui a été créée pour jouer le maintien, même s'il y a des joueurs d'expérience quand même, hein. Benoît Costil, il y a Mécher, on peut penser à un joueur comme Loris Benito aussi qui est international suisse, qui a de la bouteille, mais c'est jamais des joueurs dans leur carrière qui ont vraiment joué le maintien. Et d'ailleurs Costil, il nous l'a dit en conférence de presse hier, il nous a dit franchement, s'il y a un truc que je ne digérerais pas dans ma carrière, c'est de descendre avec les Girondins de Bordeaux. Donc voilà, et le mot d'ordre cette semaine, ça a été un peu de faire redescendre tout le monde sur terre, parce que on se souvient de ces chants sur le parvis du Matmut Atlantique la semaine dernière après la victoire face à Rennes, avec notamment les petits jeunes lancés par Jean-Louis Gasset qui avaient mis l'ambiance. On était venu communier pour remercier les supporters qui avaient un petit peu comme les Lensois escorté le bus et tout ça.
Non, c'est Fred Hermel qui se connecte pour tout à l'heure. Bon, vas-y, fini Nico.
Donc voilà, donc on a essayé de tempérer un peu tout ça cette semaine du côté de Costil, du côté de Gasser, en disant c'est pas fait, faut qu'on fasse le job à Nantes. On peut quand même penser que si Bordeaux va chercher un nul demain, ça sera fait pour le maintien.
Non, mais on est d'accord Nico, mais moi là il est là le problème, encore une fois dans ce que tu montres, que tu as envie de communier ça avec tes supporters, la victoire que tu recherchais depuis, mais au bout d'un moment faut rester quand même il faut garder les pieds sur terre. Oui. Dire tu peux pas être autant dans l'excitation après une victoire,
ça a été un tel soulagement,
tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Moi écoute, je suis bien placé pour le savoir, j'ai vécu une année galère avec le Paris Saint-Germain. On en a eu des bons résultats à 3-4 journées de la fin. Mm-hmm. Sauf qu'on était toujours à la limite parce que derrière ça gagnait. Et ben là tu dois te rendre compte, tu dois au moins attendre les résultats de la journée de championnat et te rendre compte que cette victoire contre Rennes, en effet heureusement qu'elle est arrivée, parce que si elle n'arrivait pas c'était dramatique, mais que vu le calendrier que tu as, c'est loin d'être gagné encore, parce que si tu perds à Nantes, moi je sais, je peux t'écrire ce qui va se passer, si tu perds à Nantes, et ben moi je pense qu'ils vont descendre.
Ah ouais.
Du moins, au moins ou le barrage.
Okay. Descendre.
Je pense que Nantes et Bordeaux, si Nantes gagne, Nantes est quasiment assuré de faire le barrage.
C'est vrai que les Nantais ont un meilleur calendrier. Bordeaux, ils recevront Lens et ils iront à Reims.
Alors que Nantes va à Dijon et va recevoir Montpellier, qui n'aura plus rien à jouer. Donc tu peux t'imaginer que sur les deux matchs d'après, ils vont prendre 6 points.
Jérôme, ils peuvent. J'ai été étonné que dans les successeurs éventuels de Maignan, tu m'aies pas cité Costil, parce que
il est vieux.
Oui, et puis il fait une bonne saison. Mais je crois.
Et pour le coup, c'est pas le plus mauvais Bordelais cette saison, loin de là.
Eh bien, ça prouve le niveau des autres.
Il avait envie d'en mettre une à Costil.
Tu nous as ressorti ta vieille fixette. Bon, écoute, voilà.
J'ai l'impression que le compte va bientôt arriver.
Attention.
C'est tout, capitaine, sur ce match. On peut faire le tour des stades. On y va. 19h26, le deuxième tour des stades. Celui qui conclut ce multiplex. On va parler de Lorient dans cette course au maintien. C'est important aussi d'avoir des nouvelles de Lorient qui va à Lyon pour marquer, Xavier Grimaud.
Ah oui, Christophe Pélissier ne va pas à Lyon pour défendre, tout simplement parce que Lorient ne sait pas le faire. Lorient qui a encaissé 62 buts cette saison, c'est la 18e pire défense, mais par contre, il le dit, toutes les équipes, je pense, savent qu'on peut en marquer des buts avec évidemment Mofi, Wissa, Lorienté en tête d'affiche. Alors Lyon est prévenu, les résultats à l'extérieur de Lorient, ils sont catastrophiques, mais chez les gros récemment, ils sont capables de planter, ils en ont mis 2 buts à Marseille, ils ont mis 2 buts à Monaco, donc ils marqueront très certainement au Parc OL.
Donc on rappelle l'horaire, c'est donc demain 17h, ce Lyon-Lorient. Jean-Michel Aulas donc, qui est venu, qui a écrit un message, Edouard, c'est ça? Donc sur cette rencontre.
En fait, vous savez à quoi on ressent que la période est un petit peu cruciale, c'est que Jean-Michel Aulas écrit à ses joueurs. Alors certaines fois il écrit des lettres qu'il met dans les casiers des joueurs, et en ce moment il écrit sur des paperboards juste avant la causerie à l'hôtel des joueurs. Alors il y a une suscitation, souvent c'est Churchill. La semaine dernière, avant le match face à Monaco, c'était Maurice Herzog, un alpiniste qui a vaincu l'Annapurna en 1950,
grand ministre des sports,
exactement, oui. Général de Gaulle. Derrière être le premier au sommet ou gagner un match capital, écrit Jean-Michel Aulas de sa main, n'a pas d'équivalent. On innove, on crée, on marque son empreinte, on se donne une mémoire pour l'éternité. Voilà ce que lisent les joueurs quand ils rentrent dans la salle de la causerie. Et comme me dit un cadre, ça fait toujours son effet avec les yeux perçants et persuasifs du président Aulas.
J'en ai des frissons. Moi, j'en ai des frissons.
Non, mais là, on rigole.
Tu veux rentrer dans le match.
Attention,
c'est le tour de stade.
Ah merde.
Stop. Retour important à Bordeaux, Nicolas.
Pour ouais, c'est difficile d'en rebondir après cette citation quand même. Mais Ben Arfa est incertain. Thomas Bazic aussi, le milieu de terrain est incertain. Il y a deux retours côté bordelais. Jean-Michel Seri qui revient de suspension et Nicolas Depréville pour le coup. Bon, il a pas été du tout efficace cette saison, mais vu le secteur offensif des Girondins ces derniers temps, ça pourrait faire un peu de bien.
Toutes les infos Nico sont incroyables. Et puis on termine pour être complet sur Monaco à Reims, Clément, sur Ben Yedder, tu voulais nous en parler.
Oui, parce qu'il est très heureux à Monaco, Wissam Ben Yedder, taulier, capitaine, buteur face à Lyon, un but important, hein, c'était le 19e de sa saison, il n'avait jamais fait mieux en carrière sur une saison, et de deux, c'était son 100e but en Ligue 1. J'ai toujours rêvé de marquer beaucoup de buts, et ce depuis que je suis enfant, c'est une fierté, nous a dit Ben Yedder cet après-midi, et vous le savez peut-être, mais si son père était fan des Verts d'un certain Jean-Michel Larquet, lui, était supporter de Monaco étant gamin, et l'idée de disputer la Ligue des Champions avec son club de cœur fait qu'il sera certainement difficile à bouger du Rocher.
Qui nous a, autant le père était fan de Jean-Michel et lui est fan de Jérôme Rotten. Évidemment. Parce qu'à Monaco, c'était magnifique.
Bien sûr. Dans un instant, merci les gars. Oui, ça merci Nico Paul, merci Xavier Grimaud.
On a fait ton destin de Nico sur le décalage de l'apéro quand même. Parce que pour une fois qu'il est là, d'habitude l'apéro est plutôt pour Nico Paul.
C'est vrai,
il est. Mais heureusement qu'ils m'ont pas pris dans la course au titre à 21h ou à 20h30. Parce que c'est trop tard, vendredi soir.
Allez, je me suis mis le paperboard devant moi.
Tu risques rien pour la course au titre, tu risques rien.
C'est quoi la phrase, Jérôme? La phrase de mon paperboard. Voilà, mais. Celle de Jean-Michel Aulas.
À chaque fois, j'ai notre patron, Karim Medjari, qui me met une phrase là. Je suis comme un fou là.
Très bien.
Je suis excité.
Exactement. Dans un instant, le foot européen. Merci les gars. Toute la 36e journée de Ligue 1 sur RMC. Tous les matchs en direct. Évidemment, ça commence dès ce soir, 21h. Lens, Lille, le foot européen, il y a d'énormes affiches au week-end en Espagne, en Angleterre, on y va dans un instant. Et annonce de l'UEFA, les premières sanctions contre les clubs qui voulaient rallier la Super League. Je vous en parle dans un instant, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten Régal, Jean-Louis Tour,
Jérôme Rotten.
19h32, toujours dans Rotten Régal, allez, reste une demi-heure, Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet, toujours avec moi bien sûr. Il y a le quiz bientôt.
Exactement, 32-16 pour vous inscrire.
Mais avant...
Foot européen.
Ah oui.
RMC, Rotten Régal.
Européen.
Avec ce week-end, deux énormes matchs. Barça, Atlético en Espagne. Fred Hermel est avec nous. Salut Fred.
Hola chicos. Salut Fredo.
Et tout simplement la finale de la Ligue des Champions entre Chelsea, entre Manchester City et Chelsea. De demain 18h30, Julien Laurent c'est là. Salut Julien, l'homme de l'année même.
Salut Julien. Salut à tous.
Alors, juste avant de parler de ces matchs, messieurs, l'UEFA vient d'officialiser dans un communiqué il y a quelques minutes les sanctions contre donc les 9 clubs qui ont annoncé leur participation au projet de Super League et se sont retirés depuis. Donc on parle d'Arsenal, Milan, Chelsea, l'Atlético, l'Inter, Liverpool, City, United et Tottenham. Ces clubs, la principale sanction, c'est qu'ils vont avoir un rabais de 5% des recettes qu'ils auraient pu percevoir sur la prochaine saison de Ligue des Champions.
Content déjà qu'ils voulaient plus d'argent, alors on leur en retire. Voilà.
Par ailleurs,
c'est bizarre que l'UEFA touche le portefeuille. C'est assez bizarre. Ouais.
Par ailleurs,
c'est pas leur genre.
Pour être complet,
c'est vraiment pas le genre de.
Vous savez qui
c'est. Tu sais, Jean-Michel, le football populaire, tout ça.
Ah oui, ils aiment ça. Ouais. Non,
par ailleurs, trois clubs sont toujours dans ce projet, ne se sont jamais retirés.
Et eux,
le Real, le Barça et la Juve. Eh bien, les concernant, l'UEFA se réserve le droit de prendre les mesures qu'elle juge appropriées, donc peut-être plus sévères que
j'aimerais entendre Zinedine Zidane là-dessus, s'il a un avis.
Il a peut-être un avis, mais il ne le donne pas.
Ah,
alors, Fred, donc.
On parle d'une sanction qui serait que. Parce que dans la réforme de la Ligue des Champions, il y aurait un repêchage pour deux clubs historiques suivant le coefficient UEFA si jamais ils ne se qualifiaient pas par leur Liga, par leur championnat respectif. Alors, ils pourraient supprimer ça.
Oui,
ça veut dire qu'ils tremblent au Real.
Ouais.
Parce que pas finir dans les. Il faudrait que. Si le Real ne termine pas dans les quatre premiers, il ne pourrait plus être repêché.
Ouh. Oui, bah là, c'est pas cette année.
Non, c'est bon. Mais de toute façon, il y aura
ça n'arrivera jamais, tu veux dire.
Mais bien sûr, ça n'arrivera jamais.
C'est une fausse sanction, oui, bien sûr.
Parce que si le Real ne termine pas dans les quatre premiers, c'est qu'il n'a plus rien à faire en Europe.
Oui, exactement.
Alors, Fred, on ne va pas parler du Real. Si le Real pourrait être le grand gagnant, s'il y a match nul, par exemple, entre le Barça et l'Atlético.
Ou s'il y a victoire du Barça contre l'Atlético, puisque le Real joue dimanche contre Séville. Et le Real a le collaverage particulier favorable par rapport au Barça, mais aussi par rapport à l'Atlético. Mais bon, le gros match, c'est demain.
Exactement. 16h15 au Camp Nou, donc Barça Atlético. On a un duel qui arrive tout de suite en tête, là, c'est Messi Suarez. Forcément.
Ah bah oui, c'est le retour de Suarez. Rappelez-vous ces mots de Messi en septembre-octobre lors d'une grande interview à une télé espagnole quand il disait ils ont fait n'importe quoi les dirigeants, mais comment, c'est une folie d'avoir laissé d'avoir mis dehors Suarez gratuitement et surtout de l'avoir envoyé chez un rival direct. Il avait vu réellement parce que il avait vu clair Messi parce que le rival il est plus que direct, c'est même le leader de la Liga. Donc c'est dingue, surtout que Suarez ben la greffe a prise à l'Atlético, 21 buts cette saison. En plus des buts souvent très importants, les buts qui donnent les victoires ou qui permettent les égalisations, un Suarez qui a eu le Covid, a eu un petit problème il y a un mois, une petite déchirure musculaire à la jambe gauche, mais qui est bien là et qui sera évidemment la plus grosse menace pour cette équipe de du Barça, même si beau joueur, le Barça, d'ailleurs ce sont plus les mêmes dirigeants quand même que ceux qui ont viré Suarez, même si c'est le même entraîneur que Mann, il y aura a priori un hommage à Luis Suarez pour son premier retour sur la pelouse du Camp Nou.
Oh, c'est logique ça.
Comment tu vois ce match, Jérôme?
Écoute, l'Atlético, moi je les voyais un petit peu en perdition, ouais. C'est un grand mot, mais
perte de vitesse.
Ouais, perte de vitesse, et c'est vrai que dernièrement ils se sont bien repris.
Après, ils ont eu quelques absents à un moment, dont Suarez, ouais. Et maintenant ils ont récupéré tout le monde.
Ils ont tout le monde. Et puis,
de toute façon, la liste des convoqués, il peut y avoir tout le monde. Tout le monde est à disposition. Voilà, ouais. Jiménez a des petits problèmes musculaires, mais à part lui, il sera quand même dans le groupe.
Ouais, sinon, il y a tout le monde.
Il peut faire ce qu'il veut, Simeone. D'ailleurs, non, il va même laisser, il semblerait, João Félix sur le banc. Hein,
non, mais c'est important. Et puis après, où ils ont eu la réussite, c'est que quand ils ont perdu des points, les concurrents, la défaite de match en retard de Barcelone à domicile contre Grenade,
c'est terrible.
C'est horrible.
C'est une contre-performance terrible. J'imagine pas que le Barça puisse perdre deux fois de suite sur son terrain.
Ouais.
Cela dit, ça prouve quand même qu'ils avaient une chance unique de se remettre dans le coup, le Barça. Et là, c'est un coup d'arrêt. Et moi, je les crois, je les pense fébriles, même si entre-temps, ils sont allés gagner du côté de Valence, c'est ça?
Ouais, Valence, ouais. Ouais.
Bon, mais je les sens pas bien, c'est Barcelonais. Ouais, d'accord. Je les sens pas.
Après, c'est toujours pareil, hein, Jean-Michel. On dit ça souvent, et c'est vrai que cette défaite contre Grenade nous montre que Barcelone peut perdre contre.
Même si Grenade est une bonne équipe.
Ouais, hein. Ouais, Grenade est surprenant. Ils ont fait quand même quart de finale d'Europa League cette année, donc ça montre leur qualité. Mais voilà, il y a un match coup près là. L'expérience elle peut être aussi du côté de Barcelone. La façon d'avoir toujours été le chasseur et d'avoir l'occasion de rattraper ton retard là sur un match sec, c'est peut-être un avantage aussi pour Barcelone.
Je suis de retour là. C'est quand même mieux quand je suis à côté de vous. Hein.
Ah bah c'est sûr, on est tous bien meilleurs quand t'es à côté de nous en plus.
Ah oui, c'est vrai. Je suis d'accord à ce que dit Jérôme. Je pense qu'il y a quand même un avantage au Barça. Je pense qu'il y a quand même un avantage au Barça parce que l'Atlético, oui, c'est un peu refait la série ces dernières semaines. Mais franchement, le week-end dernier, le Malta Elche, qui est quand même pas un foudre de guerre, c'était un match de l'Atlético qui a peur, de l'Atlético. Ouais. Pour moi, il y a une fracture.
Avec un péno à la dernière minute pour Elche, se mettre sur le poteau.
Exactement. C'est-à-dire que il y a une fracture qui s'est produite, match aller de 8e de Ligue des Champions, les 6 défenseurs et puis ce match horrible. Voilà.
À partir de ce moment-là. Entre le vestiaire et Simeone?
Non, mais c'était le début. Oui. Et depuis, il n'y a plus rien offensif. C'est-à-dire que c'est une équipe ultra. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un beau résultat, je puis un 6-0 contre, je sais plus qui, Eibar, je crois.
Oui, Eibar, le dernier.
Ils sont 26 points, Eibar. Ils sont là.
Bah oui. Mais franchement, le match à Elche l'autre jour, tu as raison, ce penalty sur le poteau à la dernière minute. Franchement, cet Atlético est hyper poussif. Il finit mal et puis pas dans un bon esprit. C'est-à-dire l'esprit de conquête qu'il y a eu jusqu'au mois de janvier, on l'a plus vraiment aujourd'hui. On a l'impression que Simeone, il est là pour conserver coûte que coûte la première place, mais vraiment, tu sais, un peu radin dans le jeu. Ouais, ouais. Et en général, quand t'es comme ça, quand t'as pas l'esprit de conquête, je pense que Jean-Michel et
Jérôme sont d'accord avec moi. Hein.
Non, mais quand t'as pas les, quand t'es un joueur et que tu,
à vérifier,
quand tu veux conserver un résultat, conserver ta petite place mais chichement et que t'as pas l'esprit de conquête, en général, quand tu joues contre le Real ou contre le Barça, tu te fais
avoir. Ouais, tu te fais avoir.
Fred, merci. Ce qui s'est passé d'ailleurs.
Oui, exactement. Merci Fred.
Merci les amis.
Merci Fred.
À très vite.
Bon Allez, week-end.
Merci Fredo. Adios.
Très bien. L'Angleterre donc. Et cette répétition générale, donc, ce sera la finale de la Ligue des Champions. Et donc ce week-end, ce sera demain à 18h30. Il y a Manchester City-Chelsea avec une victoire qui assurerait le titre à City, il me semble,
ouais,
Julien.
C'est
ouais, c'est ça. Mais après, à voir quel City sera sur la pelouse. Parce que vu l'avance en championnat, pas sûr qu'il
Guardiola mette la meilleure équipe. Elle n'est pas maintenant.
Voilà,
la finale.
Julien.
C'est vrai qu'il va pouvoir peut-être faire tourner Pep Guardiola, un joueur comme ça, Joao Agüero par exemple. Guardiola nous a déjà expliqué qu'il allait lui offrir une belle sortie, un bel hommage, donc il serait capable par exemple de le faire titulariser lors des quatre prochains matchs, les quatre derniers matchs de championnat, qui seront les quatre derniers matchs aussi en première ligue de Sergio Agüero. Donc c'est possible, il a encore une fois beaucoup beaucoup d'options puisque quasiment tout le monde est aussi disponible, un petit peu comme l'Atlético tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on s'attend à des changements de la part de Pep Guardiola, c'est un petit peu normal. Thomas Tuchel aussi, il y a un enjeu pour eux parce qu'ils ne sont pas encore assurés d'être quatrième. Donc il faut aussi aller gagner. Et puis
et oui,
psychologiquement aussi, on a déjà vu une répétition de cette finale en demi-finale de Coupe d'Angleterre il y a quelques semaines à Wembley où Chelsea s'était imposé gagné, ouais, un but à zéro. Ça avait été un match très tactique. Je pense d'ailleurs que cette finale sera aussi très tactique. Et c'est vrai que le Chelsea de Tuchel avait beaucoup gêné Guardiola, qui n'avait jamais réussi à les empêcher de repartir de derrière dans la construction du jeu. C'est vrai que Chelsea avait été très bon ce jour-là en étant très efficace. Hein. Ça n'avait pas été du super football, mais ils avaient su être efficaces contre City. Ils ont empêché City de jouer. On sait que City a du mal contre des défenses à 5. Et cette défense à 5-là, c'est peut-être la meilleure défense à 5 de cette saison, tout championnat confondu, celle de Chelsea. Il fait un travail exceptionnel avec Thiago Silva et tous les autres, Tuchel. Donc, ce sera intéressant, effectivement, de voir qui jouera et où. Et on aura quand même, quoi qu'il arrive, un petit avant-goût de la finale, c'est sûr.
Lors du dernier match de championnat, il avait fait énormément tourner. 8 ou 9 joueurs avaient tourné, Julien. Il peut prendre cette option ?
Je parle il peut encore, Captain. Alors,
je parle de Guardiola. Hein, je parle de Guardiola.
Oui, bien sûr. Non, mais j'avais bien compris, Captain, parce que c'est vrai qu'à Crystal Palace, le week-end dernier, on était entre les deux matchs du PSG aussi. Donc, il était un petit peu obligé de faire tourner. Là, il y a une autre journée de championnat en milieu de semaine prochaine. Donc, il peut aussi encore faire tourner, mais il a moins la pression de reposer un Kevin De Bruyne ou un Riyad Mahrez, ouais, par exemple,
exact,
pour la Ligue des Champions qui arriverait dès la semaine prochaine, par exemple.
Ouais, et puis, tu as déjà perdu. Il ne faut pas oublier quand même, tu l'as dit, hein, ils ont perdu dernièrement en demi-finale de Cup contre Chelsea. Je pense que s'il fait tourner, imagine Chelsea s'impose pour préparer la finale, et il peut y avoir aussi un petit complexe.
Oui.
Ah bah oui, ouais, donc
ouais, tout
donc,
à fait, ouais.
Donc je pense que Guardiola voit les choses différemment, et puis comme tu dis, la finale elle est fin mai, hein, donc ils ont encore le temps de la préparer, de faire reposer les organismes.
Et là, dans ce cas-là, est-ce que tu caches des choses en pensant déjà à la finale,
non,
ou
non, de toute façon Guardiola peut pas cacher quelque chose.
Et puis il se connaissait par cœur, Jean-Louis, ouais, se connaissait par cœur.
Et puis Tuchel a mis quelque chose en place, je vois pas faire machine arrière, du moins il a fait un
formule différemment. Est-ce que ça peut jouer?
Sinon,
c'est
bien la Côte d'Azur anglaise, là, parce qu'il y a un peu de vent, là. T'es quoi? T'es à Brighton?
Ouais.
Non, nous, il fait une chaleur ici incroyable.
Ah, il y a un peu de vent, là.
On est un tout petit peu devant. Je suis
bien, c'est le souffle de Julien, on ne sait pas.
Ouais, parce que Brighton,
tellement grand jardin aussi que.
Bah, Brighton, c'est mieux que la Côte d'Azur, c'est magnifique.
Ouais, t'as raison. Est-ce que ce qui va se passer demain, ça peut avoir des conséquences sur la finale, d'une façon ou d'une autre? Ou est-ce que c'est vraiment des rendez-vous très différents et chacun est indépendant, Captain?
Tout compte. Tout compte, mais je pense que ça ferait désordre dans la maison de City si, après une demi-finale perdue, il perdait ce match qui est quand même le match du titre. C'est pas rien demain. Ouais. Hein,
oui, donc, mais après les matchs du titre, il y en aura un la semaine d'après. Ils ont 13 points d'avance. Hein.
Non, mais attends, si à un mois de la finale de la Ligue des Champions, tu arrives en ayant perdu les deux dernières confrontations.
Oui. C'est
à mon avis, Jean-Louis, excuse-moi, tu poses la question, je te réponds comme je l'aurais ressenti si ça m'était arrivé.
J'aime beaucoup quand tu réponds comme tu le ressens.
Mais en plus, Jean-Michel, c'est même pas un problème. Je pense que c'est même pas un problème de joueur, parce que le joueur, quand il prépare sa finale, c'est tellement un moment exceptionnel qu'il va faire abstraction des dernières performances, ne serait-ce qu'en championnat, contre l'adversaire du soir, donc en l'occurrence Chelsea. Mais c'est plus dans l'approche, et qu'on connaît Guardiola, psychologiquement, comment il est par moment prêt à s'adapter à l'équipe adverse. Là, le fait de perdre deux fois contre Chelsea en l'espace d'un mois, je suis persuadé qu'il peut même lui perdre déjà sa finale avant de l'avoir joué.
Ah ouais.
Ah oui, oui.
Et perdre les pédales. Oui, oui, oui. Peut, effectivement.
En revanche, ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir Guardiola, pour le match de Coupe d'Angleterre, avait essayé quelque chose sur les relances de Chelsea. C'est-à-dire un marquage individuel pour les empêcher de repartir de derrière, comme ils le font si bien. On l'a encore vu, bien sûr, contre le Real. Et ça n'avait pas fonctionné, d'ailleurs, sur le but. C'est parce qu'à un moment, je crois que c'était Walker ou Cancelo, il est un tout petit peu trop court. Main, t'arrives à partir, Cancelo. Ça va très vite. C'est le contre du but. Peut-être que là, en revanche, Guardiola va se servir du match de demain pour essayer de contrer Chelsea d'une autre manière et pour voir, ok, le marquage individuel, ça n'a pas fonctionné, ils ont quand même réussi à sortir de derrière. Essayons quelque chose d'autre. Et peut-être que là, en revanche, tu peux mettre quelque chose en place, si t'es Guardiola, déjà avec la finale en tête, en disant, et si ça marchait demain, ça pourrait peut-être remarcher pour la finale. Alors que Tuchel, lui, c'est tellement important pour la quatrième place qu'il est obligé de jouer comme habituellement, il va rien essayer. En revanche, Guardiola, lui, peut-être peut se permettre
de tenter des choses,
un coup tactique ou deux. Mmh. Voilà.
Très bien, Julien, merci beaucoup. Le match,
si, Julien, oublie pas la crème. Hein.
Merci les gars. Non, t'inquiète pas.
Ouais, le match, je t'ai vu bien bronzé à la télé déjà toute la, on l'a vu toute la semaine. L'écran total,
l'écran total, Julien, toute la semaine.
C'est pas fini. Ça va l'être encore pendant 15 jours.
Bien sûr. Et c'est normal et c'est mérité.
Quel homme. L'homme.
Il a deux avantages, c'est que donc il suit les clubs qui sont en finale de Ligue des Champions, et puis comme on peut pas aller en Angleterre, bah il est forcément réquisitionné sur tous les matchs. Mais parce qu'on peut envoyer personne sur place.
Mais il s'éclate, il est content.
Voilà. C'est plus fort aussi.
À l'époque, quand il était aux Parisiens, qui s'embêtait un peu là.
Oui, il essayait de te gratter des infos.
Bah tout le temps.
Hein. Ah oui.
Tout le temps, ouais.
Et alors tu répondais.
Je lui donnais un petit peu à manger de temps en temps.
Ah t'aimais bien pas le journaliste.
Ben à l'arrivée, s'il est à la cette place là aujourd'hui, c'est aussi un petit peu grâce à moi parce que je lui ai donné des bonnes infos.
Bon, il a déconnecté. Dans une seconde. Le quiz. Et juste avant, quand même, je vous donne cette info RMC Sport que Nicolas Paul-Orsi nous a envoyé juste après le multiplex. Donc, il a dû avoir une confirmation juste après. Donc, Jean-Louis Gasset, on sait que, bon, son avenir, ça devrait pas s'inscrire à Bordeaux.
Non,
il lui reste un an de contrat quand même, sachez-le. Eh bien, les dirigeants bordelais travailleraient en coulisses sur la venue du nouvel entraîneur et le nom de Michel Derzakarian arriverait en tête de liste, lui qui ne devrait pas continuer avec Montpellier. Alors, il y a forcément une zone d'ombre.
Non, il ne continue pas, c'est sûr.
Ne continue pas. Excuse-moi, j'ai mis un conditionnel de trop. Mais comme il y a une grosse zone d'ombre avec le départ de King Street, on ne sait pas encore. Mais le groupe potentiel de repreneurs a placé Derzakarian en tête de cette.
Il va y avoir du beau monde sur le marché. Là, il y a de quoi s'éclater. Hein. Derzakarian, Thierry Loret.
Je crois qu'il est joueur de Bordeaux.
Michael Landreau.
Rudy Garcia.
Moulin.
Bah, Rudy Garcia.
Moulin. Ouais. Moulin qui a dit l'arrêter.
Rudy Garcia, non ?
Rudy Garcia, il va arrêter aussi, c'est pareil. Ah non, mais là, il faut faire le bon choix parce que là, c'est un choix de riche.
De toute façon, parce que dans tout ce que tu as dit, il y a aussi peut-être des mauvais choix. Donc voilà, il ne faut pas se tromper.
Il ne faut pas se tromper.
Voilà, c'est important. Derzakarian, en tout cas.
Tu mettrais sur qui ? Toi, tu viserais.
Si t'es Bordeaux,
parce que
tu prends qui ?
Là, c'est une brochette en or. Donc toi qui les connais bien, parce que tu les défends très souvent.
Pour que Roten Regal vive bien, je pense qu'il faudrait un Garcia ou un Genesio.
Bruno Genesio fait des miracles à Rennes.
Il est excellent.
Vous en avez parlé la semaine dernière. On va oublier la défaite contre Bordeaux, parce que celle-là, elle compte pas.
Ils font l'infériorité numérique. Et ils font un bon match. À Miguel Landreau ? Ah ouais.
Amika, il peut être annoncé à Angers aussi.
Ah oui,
bon client pour les Girondins, pour
Roten Regal.
Très bon client.
C'est vrai, Landreau, ce serait très bon.
Une petite info, je pense que à Angers, peut y avoir une nouveauté.
Bah dis-nous, t'as une info ou tu l'as pas ?
Et
il peut y avoir une nouveauté, qu'est-ce que ça veut dire ?
Abbey est pas loin.
D'Angers ?
Ouais.
Ah, info Jérôme Roten là.
Ouais.
Info GR25.
Écoute.
D'accord, très bien.
Et tant mieux pour lui, s'il commence par Angers, c'est magnifique.
C'est du même niveau que Messi au PSG par Daniel Riolo ?
Tu verras lequel se réalisera.
Très bien. Voilà. Allez, on vérifiera ça très vite. Le quiz dans une seconde. 32-16, à tout de suite.